France Inter.
Il faut redoubler d'efforts pour pouvoir vendre des véhicules électriques au prix du thermique. Il faut apporter des réponses. Il ne faut surtout pas hésiter parce qu'il faut continuer d'avancer. L'inquiétude fait partie de la marque de fabrique des Européens. À force d'être inquiet, on finit par oublier d'être performant.
C'est Carlos Tavares quand il est encore patron de Stellantis. En octobre 2024, il défend sa stratégie. Deux mois plus tard, les actionnaires du constructeur lui demandent finalement de descendre du véhicule après de mauvais résultats et l'accumulation des critiques sur sa radicalité. L'exemple emblématique, c'est le véhicule électrique. Tavares a longtemps freiné avant de décider d'y aller à fond. Alors aujourd'hui, un autre homme est au volant du cinquième constructeur mondial. Il s'appelle Antonio Filosa. Il vient de présenter ce qu'il appelle un grand reset, un changement sec de trajectoire avec le retour de modèles thermiques comme la fameuse Jeep Cherokee. Il annonce, Filosa, 22 milliards de charges dans ses résultats 2025. C'est plus que ce que vaut l'entreprise en bourse, c'est vertigineux. Hier, l'action a plongé de plus de 25%. Alors tout n'est pas de la faute de son prédécesseur. La grande marche arrière sur l'électrique, elle se passe d'abord sur un marché important de Stellantis, ce sont les États-Unis. Fini les aides à l'achat et les exigences sur les émissions. Ford et General Motors y laissent aussi des milliards. L'Amérique fait son retour vers le futur du thermique, pendant que Pékin pousse les constructeurs chinois à conquérir le monde avec leurs électriques. Et en Europe, eh bien, Bruxelles assouplit la date butoir de 2035, mais elle garde le cap sur l'électrique. Et c'est bien ce qui pose aussi problème à Stellantis, en particulier sur le segment des utilitaires. Et puis les industriels attendent plus de protection. Les 27 vont ouvrir dans les prochains jours un débat majeur sur le Made in Europe. Qu'est-ce que ça veut dire ? La localisation des usines ou bien alors aussi de la recherche et développement ? Et puis quelle part de contenu local faudrait-il avoir pour obtenir un label Made in Europe ? Et puis en échange, quelle protection, quelle préférence européenne, quel bonus ? Bon, sans vouloir spoiler, ça va durer tout le mois de février, au moins, c'est le début. Et les Européens, ils sont pas tous d'accord.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Nous sommes le samedi 7 février, bienvenue, c'est l'heure de prendre le café avec la bande de l'écho. Valentin Pérez, Céline Hilla, Anne-Cécile Perrin, Anne-Laure Cochet qui a signé les mix. Et puis les deux mains sur la console du son, c'est Gaspard Guy Bourget en face de moi, derrière la vitre. Les soldes viennent de se terminer, on fera le bilan avec notre invité, c'est le PDG de ProMode, une marque française qui tient dans la tourmente. La crise de l'habillement français est-elle ou pas une fatalité ? Interview de Julien Paulet vers 9h40. Parce que dans le textile, vous le savez bien, les redressements judiciaires s'enchaînent, parfois même les liquidations. Encore cette semaine, on a vu les difficultés du groupe qui détient Okaidi, Obaibi et puis Oxibul, ça se sont des jouets. La mode enfant, elle est confrontée à deux nouveaux mots. La seconde main, ça c'est pour tout le monde. Et puis alors, un mot, un mal particulier, la dénatalité. Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. Quoi de neuf au boulot ? Notre meilleure conseillère est autour de la table. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Ce matin, des nouvelles fraîches sur trois grands classiques des ressources humaines. Vous répondez à trois auditeurs. Il y a Tom, il y a la question de Corinne et puis celle de Dom Dom.
Oui, comment rester sur la mutuelle de son conjoint ? Doit-on prendre un jour de congé si l'entreprise ferme à cause des intempéries ? Et que risque-t-on à ne pas respecter un préavis de départ ? Je vous dis ça tout à l'heure.
Tom, Corinne, Dom Dom et tous les autres, les réponses, ça se passe juste avant 10h. Mais d'abord le débat, et c'est ce matin avec la chef du bureau de Paris du Financial Times. Bonjour Leïla Aboud.
Bonjour Alexandra.
Et Sophie Fay, journaliste au service économie du quotidien Le Monde. Hello Sophie.
Hello Alexandra, bonjour
vous,
à tous.
Vous avez aussi signé les deux grands articles du quotidien sur Stellantis, juste en trois mots. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce constructeur automobile ?
On a un peu le pire des deux mondes. Ils espéraient avoir le meilleur des deux en rapprochant un gros constructeur américain et européen, et on a un peu le pire des deux.
Et 22 milliards, c'est vertigineux.
Vertigineux, ahurissant.
Alors, notre débat ce samedi, on verra bien ce qui va se passer, on en reparlera, mais ce samedi, nous parlons des réseaux sociaux interdits aux mineurs. Ça se passe déjà en Australie, ça va se passer en France pour les moins de 15 ans, normalement à partir de septembre. Ça devrait se passer en Espagne, au Portugal. Et derrière cette interdiction de toute une partie du public habituel des réseaux sociaux, il y a un volet économique. Est-ce que ça peut faire du mal à la rentabilité de ces plateformes? Comment ce mouvement s'inscrit dans le rapport de force entre l'Union européenne et l'administration Trump? Bref, derrière la protection des mineurs, on a de grands enjeux économiques à discuter. Et une question, pouvons-nous sevrer l'économie française de la tech étrangère? C'est parti.
On interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans.
Emmanuel Macron.
Et on va interdire les portables dans nos lycées. Le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n'est pas à vendre. Les émotions de nos enfants et de nos adolescents ne sont pas à vendre ou à manipuler, ni par les plateformes américaines, ni par les algorithmes chinois.
L'Espagne va interdire l'utilisation des réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans et les plateformes seront tenues de mettre en place des systèmes de vérification de l'âge.
Aujourd'hui, nos enfants sont exposés à un espace qu'ils n'étaient pas censés explorer seuls.
Pedro Sanchez, Premier ministre de l'Espagne.
Un espace de dépendance, d'abus, de pornographie, de manipulation, de violence, et nous ne l'acceptons plus.
Regardez les levées de fonds aujourd'hui,
Michel Paulin,
des sociétés françaises de software.
Ex-directeur général d'OVH Cloud, président de la filière logiciels et solutions numériques de confiance.
Dans le domaine de l'IA, de la data, les private equity américains, qu'est-ce qu'ils font? Ils rachètent des sociétés françaises. Donc si il n'y avait pas d'alternative, ils n'iraient pas racheter ces sociétés-là. Il y a eu un narratif depuis 10-20 ans pour dire « moi, monopole de fait, les autres n'existent pas ». Non, ça c'est faux. Il faut vraiment combattre ce sujet-là.
Sortir de la dépendance aux outils numériques américains, c'est la volonté du ministre délégué à la fonction publique. David Amiel annonce la généralisation d'ici à 2027 d'un logiciel de visioconférence 100% français pour l'administration française.
Cette situation, elle expose la France et l'Europe à des vulnérabilités.
Anne Le Hénaff, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique.
J'invite les grands groupes, les ETI, les PME a également s'engager davantage en faveur des solutions françaises et européennes.
Pendant très longtemps, on considérait que les États-Unis étaient un pays allié et que ça resterait un pays allié pour toujours.
Christophe Grosbeau, directeur stratégie de l'association Innovation Makers Alliance.
En réalité, si demain Donald Trump rentrait dans les headquarters de Google, de Microsoft et d'Amazon et leur disait « écoutez, couplez complètement les accès européens », je pense qu'on perdrait toutes nos capacités sociétales, politiques, économiques. Nous devons recréer l'indépendance européenne du numérique.
Allez, notre porte d'entrée dans le sujet, c'est cette interdiction, Leïla Aboud, des réseaux sociaux, au moins de 15 ans pour la France, et ça serait plutôt 16, si j'ai bien compris, pour l'Espagne et le Portugal. Et on va discuter de l'impact sur le modèle économique, mais d'abord, vous nous mettez à niveau sur ce qui se passe?
Oui, on a vu l'année dernière que l'Australie est passée à l'acte comme premier État qui a choisi d'interdire les réseaux au moins de 16 ans, ils ont fait là-bas. Et c'est intéressant de voir l'approche qu'ils ont pris. Ils ont vraiment mis tout l'onus, le charge de mettre en place ça sur les plateformes. C'est-à-dire, ils n'ont pas dit il faut faire X, Y, Z pour vérifier, juste il faut que vous vérifiez. Si vous ne vérifiez pas, on vous met des amendes d'une trentaine de millions d'euros possibles s'ils ne le font pas. Ils sont tout au début, ça a commencé qu'au mois de décembre. Alors du coup, on ne sait pas encore vraiment comment ça va marcher. Le gouvernement a dit que les plateformes ont enlevé environ 5 millions de comptes de personnes jeunes, mineures. Mais bon, déjà, il y a une discussion qu'on va voir où ça mène, si c'est même possible techniquement de rendre ce type d'interdiction
effectif,
voilà, mm-hmm. Parce que voilà, c'est assez facile de les contourner. Et on voit ça dans tous les domaines du numérique où il y a des petites manips et des combines que vous pouvez faire pour éviter tout ça. Mais bon, je pense que c'est pour moi quand même c'est un tournant. C'est pas uniquement une polémique ou un truc symbolique où les hommes et femmes politiques comme Monsieur Macron, comme le président ou Sanchez surfent dessus. C'est un vrai tournant.
Un tournant pourquoi? Pour l'économie, pour la morale, pour l'éthique?
Non, parce que ça fait 20 ans qu'on vit dans ce monde avec les réseaux sociaux et le smartphone et toute la régulation qui existe, c'est en amont, c'est pas en aval. Et on essaye de dire, OK, on peut pas faire ce type de comportement, ce discours haineux, il est pas permis. Et c'est un peu, tout se passe en bas. Mmh. Et là, il y a un gouvernement ou des gouvernements qui commencent à dire, vous savez quoi, tout ce truc, c'est impossible à réguler après coup.
Okay.
Il faut juste limiter l'accès à tout un groupe de gens.
Sophie, est-ce que pour vous, Sophie Fay, est-ce que pour vous aussi c'est un tournant ?
Oui, c'est un tournant. Pour moi, c'est un peu comme le début du combat contre l'industrie du tabac. Au début, on a été doucement, on a pensé que ça marcherait pas. Et puis aujourd'hui, quand vous allez dans un restaurant et que quelqu'un fume, vous comprenez pas ce qui se passe.
Non.
Et donc c'est devenu complètement naturel. Et donc on va apprendre à la fois en mettant des contraintes sur les plateformes et en essayant de prévenir les utilisateurs que il faut pas y aller trop jeune, il faut s'en méfier, il faut savoir comment les utiliser. On va faire un peu comme le tabac, essayer de l'utiliser avec modération jusqu'à les obliger, eux, à devenir vertueux s'ils veulent qu'on continue à aller dessus. Et en plus, on a cette possibilité de le faire parce qu'on a l'impression que c'est un monopole, qu'on est complètement dépendant, mais les réseaux sociaux, il y en a beaucoup. Et il y a aussi beaucoup de circulation entre eux. Regardez, avant, c'était vraiment Facebook qui était ultra dominant. Puis finalement, tout le monde est parti plutôt sur Snap. Enfin, c'était plus à la mode, c'était un truc de vieux. Donc on est parti plutôt sur Snapchat ou Instagram, mais il y a aussi des gens qui sont sur Pinterest, il y a des gens qui sont sur toutes ces réseaux sociaux qui sont liés au gaming, au jeu, Roblox. Vous avez le réseau social LinkedIn qui a beaucoup progressé depuis que Twitter est devenu X. Donc il y a des alternatives. On voit aussi que ces géants, ils sont très vocaux, on les entend beaucoup, ils se plaignent beaucoup et ils critiquent beaucoup l'Europe, mais on voit qu'ils ne sont pas incontournables. Oui. D'ailleurs, il y a des pays où ils ont une toute petite part de marché. Si vous regardez en Corée, c'est un réseau local, Naver, qui est dominant. Et en Russie, c'est Yandex. Donc, y a des... et en Chine, bien sûr, il n'y a plus de réseau américain. Donc, il y a des alternatives possibles.
Bon, et si on va sur... parce que vous parliez, Sophie, de l'industrie du tabac. Quand on commence à mettre des interdictions, ça peut quand même faire très mal. Qu'est-ce qu'on peut dire, Laïla, de à quel point ces réseaux tiennent au marché européen, à quel point ça peut leur faire du mal de dire, les jeunes, non, c'est plus possible.
Je pense que ça peut faire mal. Hein. Pas uniquement sur le chiffre d'affaires ou la rentabilité, mais juste l'image que ça donne, qu'il y a quelqu'un ou un pays qui dit stop. Non. Et si on regarde vraiment juste les chiffres, Meta, ils gagnent un quart de leur chiffre d'affaires en Europe. Et mine de rien, c'est la région qui a eu la croissance la plus forte l'année dernière. Ça m'a surpris.
Meta, Snap, c'est entre autres Facebook.
Ouais, Meta, c'est Facebook, Instagram, voilà. WhatsApp. Mm-hmm. Snap, c'est un quart des utilisateurs. Ça aussi, ça m'a surpris, mais bon. TikTok, c'est le même nombre d'utilisateurs en Europe qu'aux États-Unis, environ 150 millions.
TikTok, propriétaire chinois.
Voilà. Mm-hmm. Et Google, carrément, un tiers du chiffre d'affaires vient d'ici. Alors, il ne faut pas non plus minimiser la portée des Européens là-dedans. Et ça nous mène aussi sur... le modèle économique, rappelons juste deux secondes comment ils gagnent de l'argent à tous ces réseaux sociaux, c'est avec notre attention. Et il y a une phrase très connue aux États-Unis de l'époque d'Internet où c'est si tu ne payes pas le produit que tu es, produit, tu es le produit. Et en gros, c'est quand...
Si tu ne payes pas, c'est que c'est toi le produit.
Voilà, ouais. C'est ça. Et on est dans ce monde-là où le temps qu'on passe sur X ou sur Meta ou sur Insta est vendu comme publicité. Et tout ce qui rend le produit plus addictif et plus rentable pour Mark Zuckerberg ou Elon Musk.
Donc là, on est dans ce moment où c'est une nouvelle étape dans le rapport de force sur le numérique, Sophie Fay. La question, c'est qui va écrire les règles ? Et vous disiez, il y a des alternatives. Nous, ce qu'on a entendu quand même toutes ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est que il y a une possibilité, enfin, Big Tech est forte parce qu'ils disent, mais si on vous coupe les services, vous n'êtes plus grand-chose, vous les Européens.
Alors, s'ils nous coupent les services, ils sont plus grand-chose, eux non plus, parce que quand on regarde ce que disait Léla, il y a une autre manière de le dire, c'est que eux, ils regardent l'ARPU, c'est-à-dire le revenu par utilisateur, ça c'est vraiment leur critère, et quand vous regardez l'ARPU, un Américain, je schématise, mais un Américain c'est $70, donc qui rapporte par année au réseau, un Européen c'est $25, mais dans les autres pays, en Asie, c'est $5-6, et dans le reste du monde, moins de $4, donc ils ont quand même besoin de nous. Et par ailleurs, quand on regarde la photo, c'est vrai, on fait la photo, on se fait un peu peur. On n'a pas de...
90% des recherches, c'est Google. Le cloud, c'est AWS, c'est-à-dire Amazon pour les entreprises. Enfin, c'est... Oui, on se fait un peu peur
Se fait un peu peur. Mais si on fait le film, si on regarde un peu en dynamique, on commence à avoir des accords. Alors, Microsoft fait des accords locaux. pour installer ses bases de données en Europe. Google et Thales ont fait un accord. Là aussi, les bases de données seront en Europe. Donc, on commence à reprendre un peu la main. Et puis, il y a ces initiatives.
Moi, je vais être plus négatif là-dessus.
Ces initiatives. Alors, ça ira doucement, mais c'est quand même quelque chose. L'autre point, c'est que là aussi, ils ont besoin de nous. Quand vous regardez Microsoft, ils ont publié des chiffres sur l'utilisation de leur cloud. Et on voit que 40% de ce qu'ils vendent dans l'espace numérique, à la fois pour stocker des données et pour les faire travailler, en fait, on voit que toute la croissance vient d'un seul acteur qui est OpenAI. Et ils doivent montrer qu'ils n'ont pas qu'un seul acteur, qu'ils ont beaucoup plus d'acteurs. Oui, et dans cette diversification, l'Europe est importante.
Vous débordez un tout petit peu, Sophie. Moi, j'ai dit que c'était important que... Enfin, moi, je suis très, très cynique sur la capacité de l'Europe à se découpler des États-Unis sur le cloud, sur le
numérique. Vous croyez pas qu'on peut y arriver seul?
Ah ben non, jamais. Mais je trouve quand même que la tentative de mettre de faire niette, de dire niette, stop aux réseaux sociaux pour les jeunes, ça c'est intéressant. Mais sur le fond des fonds, enfin par exemple, le gouvernement français cette semaine ou la semaine dernière a dit qu'ils vont avoir une politique d'achat beaucoup plus européen pour essayer de pas
cette
acheter.
Semaine, ouais.
Voilà. Mmh. La semaine dernière, c'était ils ont dit à tous les ministres qu'il fallait utiliser un outil de vidéoconférence qui s'appelle Visio natif que eux, ils ont construit et pas Zoom. Enfin là, franchement, ça m'a fait rire.
Dans le zap.
Ça m'a fait rire. C'est bon, c'est sympa, mais ça change absolument pas la donne.
Voilà. Pourquoi ça change pas la donne? Si on construit un outil souverain, je vais me faire.
Parce que c'est la bataille d'il y a 20 ans, ça.
Vous pensez qu'il faut pas courir après la tech américaine?
Je pense qu'il faut pas courir la vidéoconférence. Faut peut-être courir avec sur l'IA ou quelque chose. Mais mine de rien, je pense que pour les jeunes et les réseaux, c'est autre chose. Hein, c'est super important. Et là, l'Europe peut vraiment changer la chose si ça se passe.
Ouais. Moi, je crois qu'il faut pas s'avouer vaincu parce qu'à chaque fois, ils disent l'Europe, c'est ridicule. Vos règles sur les données, vos règles sur l'IA, elles sont ridicules. Et en même temps, à la fin, quand vous voyez à un moment, on a arrêté en France le Pavel Durov, le patron d'un des réseaux
Telegram.
Sociaux, d'une messagerie Telegram, et que il voulait absolument pas coopérer. Et quand vous regardez aujourd'hui, Telegram coopère un peu mieux avec les autorités et la police française. Quand vous regardez Mark Zuckerberg, Elon Musk, il veut absolument pas entendre parler des enquêtes sur X ou de collaborer à quoi que ce soit. Et en même temps, il a eu un bras de fer dans certains pays, au Brésil notamment, et il a fini par céder. Donc, mine de rien, tous ces petits coups de canif les font céder progressivement. Ils ne restent pas complètement indifférents à ça. Donc, on a quand même une carte à jouer. Et par la marge, on peut faire bouger le cœur. Il faut pas désespérer. Surtout que, en fait, il faut voir eux, ils ont une obsession, en fait, en ce moment, qui, c'est d'aller plus vite que la Chine sur leur intelligence artificielle. Et donc, pour ça, tous les moyens sont bons. Mais nous, en Europe, on a une place à jouer.
Nous, on a la régulation, puis on a la taxation.
Ouais. Oui, oui. Juste pour dire que, pour vous montrer que l'Europe met le doigt là où ça fait mal, c'est que Elon Musk, 3 minutes après que Pedro Sanchez a prononcé
le premier ministre espagnol qui annonce
un tyran et c'était quoi tyran et un traître aux Espagnols. Bon, c'est sympa. Pavel Durov aussi est sorti avec un non seulement c'était pas un message, il a envoyé un message directement sur les portables de tous les Espagnols qui utilisent Telegram. Déjà, c'est un peu limite côté vie privée, mais en gros pour leur dire c'est horrible, ils vont vous espionner, c'est hors la loi. Alors, on voit quand même que c'est pas rien. Enfin, ils vont pas s'amuser les milliardaires de la tech à envoyer des messages comme ça s'il y avait pas les vrais enjeux derrière.
En plus, il faut rappeler ce qu'on leur demande, ne pas arrêter d'étouffer les moins de 15 ans pour TikTok par exemple, ne pas lancer les vidéos automatiquement pour que ce soit un peu moins addictif.
C'était hier, ça date de hier, cette info. Oui.
Et pour X, tout simplement, ne pas mettre de pornographie ou de pédopornographie quand les gens ne la demandent pas. Quoi. Enfin, et même quand les gens la demandent, d'ailleurs, pas faire de pornographie tout court.
Allez, c'est le moment du grand tournant, en tout cas, pour les réseaux sociaux. Là, c'est le point sur lequel vous êtes rejointes, Sophie Fay et Leïla Aboud. Elles ont fait le débat dont on n'arrête pas l'écho.
Real decreto ley para la ampliación de derechos
deindustrialización en
unemployment and lower job
creation.
L'économie comme les hommes la font tourner ailleurs, c'est l'écho en VO, alors pas loin, à 2 heures d'avion, et ben nous sommes en Hongrie.
Hogy egyszerűen a magyar önkormányzatszektor és beleértve Budapest eljutott a tönk szélére. Mi ott táncolunk már a szakadék szélén, nem fogunk leesni, ezt a szíveséget nem tesszük meg senkinek.
Budapest est au bord de la ruine. Nous dansons déjà au bord du précipice, mais nous ne tomberons pas, nous ne ferons cette faveur à personne. Voilà ce que dit le maire écologiste de Budapest. Il s'appelle Gergely Karácsonyi. C'était jeudi soir à la télévision hongroise. Il parle des finances de la capitale. Un cinquième des recettes annuelles de Budapest sert aujourd'hui à payer une taxe qui a été instaurée par le Premier ministre Viktor Orban. Cette taxe, elle s'appelle la contribution de solidarité. Et à deux mois des législatives, c'est un très gros enjeu économique et politique. Bonjour Florence Labruyère.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes la correspondante de France Inter en Hongrie. Alors cette taxe qui est imposée à certaines villes, elle a été contestée ces dernières années en justice par les municipalités. Mais Florence, cette semaine, la tension est encore montée parce que Viktor Orban a dit qu'il a interdit tout recours.
Oui, alors au départ, l'idée de cette taxe de solidarité est louable. Il s'agit de demander aux quelques 3000 villes plus riches que les autres de soutenir les 850 communes qui n'ont pas d'entreprise sur leur sol et qui donc ont du mal à financer leurs écoles et leurs jardins d'enfants. Mais voilà, les caisses de ces communes démunies sont toujours aussi vides. Alors où est passé le revenu de cette taxe? L'opposition accuse le gouvernement hongrois de s'en servir pour combler le déficit budgétaire, 5% du PIB l'an dernier. Et puis Viktor Orban est aussi soupçonné de vouloir punir l'opposition, car la taxe a beaucoup augmenté en 2019, lorsque l'opposition a gagné plusieurs villes aux élections. Normalement, la taxe de solidarité touche toutes les communes, même celles gérées par le Fidesz, le parti d'Orban. Mais ces dernières reçoivent des compensations de la part du gouvernement. En principe, toutes les villes sont égales, mais certaines sont plus égales que d'autres. Alors plusieurs municipalités ont porté plainte contre cette taxe, mais Viktor Orban a ordonné aux tribunaux d'annuler ces plaintes. S'ils le font, Budapest devra payer rapidement l'équivalent de 325 millions d'euros. Vous l'aurez compris, Alexandra, à deux mois des élections législatives, le gouvernement Orban a vraiment besoin d'argent.
Et Florence, au fond, est-ce que Viktor Orban manque d'argent car il a besoin de compenser les fonds européens bloqués par la Commission parce que la Hongrie ne respectait plus l'état de droit ?
Pas vraiment. En réalité, seule une petite partie de ces fonds est gelée. 70% de l'argent européen continue à arriver. Non, si Viktor Orban manque d'argent, c'est surtout parce qu'il n'arrête pas de faire des cadeaux aux électeurs. Un 14e mois pour les retraités, un salaire minimum qui augmente de 11%, des exemptions d'impôts à vie pour les mères de famille qui ont au moins deux enfants. La liste est très longue. Bref, rien n'est trop cher pour Viktor Orban quand il s'agit de gagner des élections.
Florence Labruyère avec nous de Budapest. – 9h34 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, le PDG de Promode sera dans ce studio. Interview de Julien Paulet. Comment rebondir pour une marque dans un secteur en crise? Parce que vous le savez bien, l'habillement ne se porte pas très bien. Le vêtement neuf se vend de moins en moins facilement. Un chiffre, depuis 2019, l'activité a baissé de 8,5%. C'est ce que nous dit l'Institut français de la mode. Et une boutique sur cinq a disparu. La litanie des marques en difficulté ne s'arrête pas. Ces derniers jours encore, IKKS, Jot, et avant il y avait eu Camailleux, Kukai, Jennifer, André Sans, Marina, Minelli, Comptoir des Cotonniers, Princesse Tam Tam ou encore Caporal. Certaines de ces marques ne se sont pas relevées. La crise touche le prêt-à-porter adulte, mais aussi la mode enfant, avec une tendance lourde et aggravante, c'est la dénatalité. Alors cette semaine, le groupe ID Kids, avec ses marques Obaibi, Okaidi, avait rendez-vous au tribunal de commerce pour envisager son avenir malgré ses dettes. C'est là, à Tourcoing, que notre reporter Anaël Verzo a emmené le micro dans N'arrête pas l'écho.
On se trouve dans la salle d'attente du tribunal de commerce de Lille Métropole à Tourcoing. Là, il y a peut-être une quarantaine de salariés qui sont rassemblés.
Bonjour, comment vous appelez ?
Karima, je suis manager logistique depuis 2012. J'ai une ancienneté dans la boîte de plus de 21 ans. On a des grosses inquiétudes, je peux vous dire, pour notre avenir. On s'attend à des fermetures de magasins. On est attaché à cette marque-là. C'est comme notre petit bébé, en vrai.
Les meilleurs moments, c'était quoi ? C'était quand ?
Les débuts. Le développement de plein de magasins dans le monde et en France, et de voir que notre entreprise est en souffrance, c'est dur.
Votre prénom, c'est comment ?
Eric, 24 ans chez Okaidi, passé par la logistique, passé par le service technique. J'ai connu la boîte, on avait moins de 100 magasins. Donc c'était plutôt familial où on rigolait. Maintenant, on rigole moins. C'est le boulot avant tout, la productivité.
Là, vous avez rencontré votre direction à propos du plan de redressement.
On a vu notre direction où on a su des grandes lignes sans savoir en profondeur ce qui allait se passer, quoi. On dirait qu'on a peur de nous donner des informations pour ne pas nous blesser, mais de toute façon, c'est plus dangereux de ne pas nous le dire. Ça nous blesse encore plus et ça démotive les gens aussi.
Il y a combien d'emplois menacés? Est-ce qu'ils vous en ont parlé ou pas?
Sur la totalité, on est dans 2000.
Excusez-moi de vous déranger. Je travaille à France Inter pour l'émission d'économie. On n'arrête pas l'écho?
Non.
Ok, au revoir.
Bon, j'ai tenté d'échanger avec des membres de la direction d'Okaidi, mais ils ne souhaitent pas s'exprimer pour le moment.
Au terme de cette audience, le propriétaire d'Okaidi, le groupe ID Kids, a été placé en redressement judiciaire. Un sursis pour l'entreprise qui dit vouloir accélérer sa transformation, mais les salariés restent inquiets. Selon les syndicats, 2000 emplois sont menacés. Okaidi rejoint une longue liste de marques de vêtements pour enfants en difficulté. En 2024, le groupe Général pour l'enfant, qui possède du pareil au même, Sergent Major ou encore Natalis, a été placé en redressement judiciaire. L'emblématique petit bateau a aussi traversé des turbulences. En octobre, l'entreprise a été rachetée par un groupe américain. Alexandre Rubin est le PDG de Petit Bateau depuis 2023. Je le retrouve dans son bureau, à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine.
Depuis la crise de 2008, grosso modo, le textile en France et en Europe, c'est particulièrement plus compliqué. L'enfant est encore plus touché. L'univers des magasins a été chamboulé quand même du e-commerce. Les coûts d'un magasin sont devenus plus forts puisque si les chiffres d'affaires baissent, les loyers, eux, ne baissent pas et les frais de personnel qui sont nécessaires dans un magasin ne baissent pas non plus. Donc ça rend plus fragile le modèle en général du magasin. La deuxième chose, c'est le changement de conso. La fast fashion et l'ultra fast fashion ont changé le rapport aux vêtements. Vous rajoutez un troisième fait qui est un facteur accélérant, c'est le Covid. Dans les arbitrages que doivent faire les consommateurs, le textile n'est plus la priorité. Et puis, il y a un dernier phénomène, il y a moins d'enfants. Voilà. Alors après, il y a le positionnement des marques. Tout le monde n'est pas à la même valeur. Il y a ce qu'on appelle les spécialistes de l'enfant. Des marques qui ne vendent que de l'enfant. Petit Bateau, Jacquedi, Okaidi, du pareil au même, Sergent Major. Ça ne veut pas dire que le marché de l'enfant est pris que par ces marques-là. Les grands acteurs du marché de l'enfant s'appellent Kiabi, Decathlon, H&M. C'est-à-dire que c'est des marques qui vendent pour toute la famille. Et ces marques-là, leur succès fait que c'est eux les grands acteurs du marché de l'enfant. Et c'est la concurrence qui n'a pas toujours été en faveur des acteurs spécialistes de l'enfant, qui sont plus en centre-ville ou plus en centre-co, qui sont moins dans les périphéries, qui ont parfois un positionnement prix plus élevé. Ça a encore venu rendre plus complexe le marché de l'enfant, qui a subi ce côté nouveaux concurrents, qui ont accéléré sur l'enfant, ce qui n'était pas leur priorité.
Aujourd'hui, les marques de vêtements pour enfants doivent composer avec un marché dont la taille se réduit. Un phénomène parti pour durer, puisqu'entre 2010 et 2025, le nombre de naissances en France a chuté de 24%. Une diminution du nombre de clients, qui se conjugue avec un changement des usages et la montée en puissance de la seconde main. Les parents habillent aujourd'hui leur progéniture sur Le Bon Coin ou Vinted et des sites plus modestes de vente et d'échange entre particuliers se créent en France comme Next Baby, La Fée Troquette, Swapi ou encore Kids and Mama. Stéphanie Debrosse est la fondatrice. Je me rends dans ses locaux à Montrouge, au sud de Paris.
On a à peu près 50 mètres carrés de stock dans lequel on stocke 17 000 pièces, vêtements et des chaussures.
Ah, c'est là. C'est une pièce, d'accord, avec plein de sacs entreposés, bien remplis.
Avec au fond une zone pour photographier les vêtements en fait, qu'on met en ligne. Les familles nous donnent en général des sacs de vêtements dont ils n'ont plus besoin. On va les trier, les valoriser, leur donner des bons d'échange. Et avec ces bons d'échange, ils auront accès à des vêtements de valeur similaire à ce qu'ils ont donné.
Vous êtes combien pour trier tout ça, pour vous occuper de tout ça?
Je suis la seule à être à temps plein. J'ai une associée qui est à temps partiel. On travaille avec des personnes qui sont dans un dispositif qui s'appelle le dispositif Premières Heures, 8 heures par semaine, qui est subventionné par l'État.
Donc là, voilà, le QG de Kids and Mamas.
Bonjour. Bonjour. Enchantée.
On est dans une période où on a pas mal de stagiaires. Et donc, j'ai Octave qui fait de la couture. J'ai Rim qui fait de la communication et du marketing. et Camille, qui a un stage ouvrier, en fait, qui est un petit peu homme à tout faire.
Par exemple, une petite robe comme celle-ci, là, je vois une robe pour bébé.
Ça, c'est du 18 mois.
Donc, elle est rouge avec des petits pois blancs.
Donc, c'est une robe à smock, ça se fait plus. Elle est assez vintage, hein, celle-là.
Et vous la vendez combien ?
Alors, celle-ci, elle coûte assez cher. Elle est à 23 euros si vous l'achetez. Donc, c'est un kiwi chez nous.
C'est quoi un kiwi ?
C'est des vêtements qui, neufs, coûtent entre 40 et 65 euros.
Stéphanie, est-ce que vous faites le lien entre la baisse des achats de vêtements neufs en magasin, de vêtements pour enfants, et le développement de votre entreprise ?
Évidemment. Déjà, le prix du neuf est quand même assez répulsif.
Du neuf de qualité.
De qualité. La deuxième raison, je pense que c'est la prise de conscience de la quantité de déchets textiles qu'on génère, couplée au fait que les enfants changent de garde-robe tous les 6 mois.
Alors, vous avez créé donc Kids & Mama en 2021. Oui. Économiquement, vous vous y retrouvez ?
Alors, pas encore.
Pour espérer atteindre la rentabilité, Stéphanie Debrosse espère s'appuyer sur de futurs partenariats avec des comités d'entreprise afin de séduire des parents salariés. Face à ce boom de la seconde main, face à la dénatalité, comment le secteur de l'habillement neuf pour enfants peut-il rebondir ? Gilda Mainviel dirige l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode. Il souligne que toutes les gammes ne sont pas menacées de la même façon.
Les segments qui souffrent sont plutôt les segments du milieu de gamme, qui sont parfois 3 fois plus chers que la seconde main ou l'ultra fast fashion. Et les vêtements premium peuvent éventuellement, lorsqu'ils sont des acteurs historiques avec une bonne image, un bon rapport qualité-prix, peuvent connaître des meilleures fortunes en quelque sorte. Et c'est vrai que on a ce fameux sablier dont on parle beaucoup dans notre secteur, avec peut-être les entrées de gamme qui s'en sortent bien, et puis à l'opposé, les vêtements un peu plus premium qui s'en sortent aussi. Pour réussir dans notre secteur, il faut se distinguer, il faut présenter des aspérités par rapport à la masse du marché. Je crois aussi qu'il faut revenir vers davantage de qualité pour reconquérir un consommateur qui a été déçu par la qualité des produits qui s'est fortement amenuisé ces 20 dernières années. Beaucoup de distributeurs ont chercher à augmenter les marges ou à baisser les prix, voire les deux en même temps. Si vous regardez les entreprises qui ont des belles performances, ce sont aussi des entreprises qui proposent des produits de meilleure qualité, voire made in France, et qui durent.
Dénatalité, seconde main, les grands mots de l'habillement pour petits. C'était le reportage d'Anaël Verzo.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et le PDG de Promode est l'invité d'On n'arrête pas l'écho. Bonjour et bienvenue Julien Paulet.
Bonjour Alexandra.
Promode, c'est de la mode femme, c'est la locomotive du secteur habillement, la mode femme. Alors les soldes viennent de se terminer, est-ce que chez vous ça a marché ?
Chez nous c'était une campagne de soldes correcte, on a une collection hiver un petit peu performante, donc on est arrivé avec un peu plus de stock en soldes.
Ce qui n'est pas votre but a priori.
Ce qui n'est pas notre but, ouais, c'est pas du tout.
Normalement.
Et pourtant les soldes avaient mal démarré, il y a eu quand même des grosses intempéries avec de la neige, rappelez-vous début janvier, c'est pas très bon pour le commerce, ça s'est plutôt rattrapé après, et en tous les cas on a écoulé les quantités qu'on souhaitait écouler pour redémarrer une collection été proprement.
Alors, entre les ventes privées, la fast fashion, l'ultra fast fashion dont on va parler, est-ce que les soldes, c'est toujours un rendez-vous important pour les marques ?
Non, à mon sens, on voit que les soldes sont de moins en moins un rendez-vous pour les clients. Il y a des promotions tout au long de l'année. Chaque marque actionne des promotions. C'est difficile de savoir quel est le juste prix du produit. Et on n'attend plus les soldes pour faire vraiment les affaires, et des affaires à faire tout le temps. C'est un petit peu dommage. Nous, notre stratégie, en tout cas chez Promode, est d'arriver en solde avec le moins de stock possible pour passer le plus vite possible sur la nouvelle collection.
Si vous regardez le paysage autour de vous, ça fait quand même un bout de temps que vous êtes... C'est familial, hein, Promode. On l'a pas encore dit, mais
oui,
c'est
créé par mon père il y a 50 ans. On a fêté nos 50 ans au mois d'octobre dernier.
Et votre arrière-grand-père a créé la Redoute, c'est ça ?
Exactement.
Voilà. Donc vous connaissez le textile. Si vous regardez le paysage autour de vous, ça fait des années qu'on parle des difficultés de l'habillement. Est-ce que vous avez le sentiment que là, c'est bon, il y a eu tellement de redressement, de liquidation, que l'orage est derrière vous tous, ou bien vous êtes encore dans la tempête ?
Ah non, je pense que l'orage n'est pas derrière nous, absolument pas. Certes, le marché se restructure, est en train de se restructurer, et il y a de moins en moins d'acteurs, c'est dommage. Et en même temps, il y a de moins en moins de consommation textile aussi, donc c'est peut-être aussi normal que ce marché, enfin le nombre d'acteurs se réduise, mais la bataille reste très féroce, parce que nos clientes n'ont a priori pas besoin d'acheter des vêtements, donc il faut réussir à les séduire avec un très beau produit, de qualité, à un bon prix, et trouver ce meilleur rapport désirabilité, qualité, prix, qui est toujours dur à trouver et qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'innovation et beaucoup d'amour du produit.
Ah, ça, c'est surprenant quand le patron de Promode dit a priori nos clientes n'ont pas besoin d'acheter de vêtements, il y a une déconsommation. Est-ce que c'est à quoi ça tient ça?
Mais ça tient à plein de choses. Il y a eu un boom du prêt-à-porter depuis le début des années 2000, avec un prix du vêtement qui est resté quand même relativement bas, qui n'est pas du tout suivi la courbe de l'inflation.
Ça, c'était ce qui s'est passé en 2005, c'est
exactement,
ça?
Exactement, c'est la fin des accords multifibres entre la France et la Chine. On a libéré les quotas, on a pu importer massivement des produits chinois textiles en France. Ça nous a beaucoup servi à améliorer nos marges d'entrée. Ça a profité à beaucoup d'enseignes du secteur. Il y avait un appétit de consommation à l'époque. Les Français ont consommé énormément entre 2000 et 2010. À partir de 2015, on a vu une sorte de ras-le-bol, ou en tout cas un niveau de satiété déjà bien rempli. Et nous, on a été...
Ça a été des années dures pour vous. Hein. 2016, terrible.
Exactement. Début aussi de prise de conscience qu'il faut qu'on pivote et qu'on change de modèle, parce que on n'arrivera pas à faire du toujours plus. Et maintenant, il faut faire moins et mieux.
Alors, que ça, en termes de nombre de boutiques, en termes de salariés, ça veut dire quoi chez vous, Promode?
Chez Promode, on est monté jusqu'à 1000 magasins dans 55 pays en 2014. Et entre 2016 et 2018, ou 2020, entre 2016 et 2020, nous avons fermé 600 magasins, pardon, pour revenir aujourd'hui à 400 magasins et 2000 salariés.
Et avec un chiffre d'affaires, j'imagine, qui s'est rétréci aussi.
Ah, bien sûr, on était à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, on est aujourd'hui à 410 millions.
Et vous avez changé de modèle, et vous semblez tenir. On dit que ça va bien pour vous. C'est parce que vous avez rétréci, mais vous avez augmenté la rentabilité.
Exactement. Dans ce moins et mieux, il s'agit de faire plus de marge sur chaque produit vendu. Et donc, c'est pas de vendre toujours plus de produits à petite marge, mais de vendre un peu moins de produits, mais mieux margé. Et pour cela, on s'est attelé depuis 6 ans à réduire petit à petit les promotions et à désintoxiquer nos clientes qui sont quand même shootées à la drogue dure de la promo partout sur le marché. Et donc, petit à petit, à redonner de la désirabilité à notre produit en acceptant plutôt la rupture que le surstock.
Et ça, le fait d'être une entreprise familiale, est-ce que ça vous aide ?
Bien sûr. Moi, j'ai la chance d'avoir un actionnariat familial, 100% familial. C'est mon père et ses frères et sœurs qui détiennent 100% de l'entreprise. Ils ont été patients, ils sont compréhensifs. Promode ne verse pas de dividendes à ses actionnaires depuis quelques années. Et parce qu'on réinvestit tout dans l'entreprise pour faire pivoter le modèle. Et ça, si j'avais des investisseurs institutionnels, ça n'aurait pas pu se passer.
On comprend que le prix, c'est quand même toujours le nerf de la guerre. Vous dites les clientes, elles sont shootées aux promotions. Alors, il y a deux grandes menaces pour vous. Il y a Vinted, la seconde main, et puis il y a Chine, l'ultra fast fashion, les dernières menaces. C'est le même niveau de menace pour à vos yeux?
C'est une recomposition du marché, évidemment, de la même manière pour les deux. Après, à mon avis, il y a une menace qui est autant pour notre secteur, mais aussi pour la planète, qui est Vinted, et qui est Chine.
Quel lapsus. Ouais. Non, alors allez-y, Vinted. C'est de la seconde main, ça veut dire
Vinted,
que...
c'est la seconde main, et ça va plutôt dans le bon sens. Ouais. Il y a déjà trop de vêtements sur la planète, on pourrait habiller encore plusieurs générations, enfin 3 ou 4 générations, avec ce qui existe déjà. Augmentons la circularité, et ça encouragera peut-être les marques à faire des produits de meilleure qualité, produits dans de meilleures conditions, pour que ça dure et pour qu'on se les échange en seconde main. Là où Chine déverse des produits de piètre qualité sur notre marché et dérègle complètement le prix en plus.
Mais alors, quand même, vous, Promode, vous aussi, vous avez des vêtements, il faut arriver à cette question de fond. Levée de bouclier en France contre Chine, ils fabriquent en Chine, si je vais chez Decathlon, j'achète des vêtements made in China. Si je vais chez vous, je suis sûre qu'il y a des vêtements made in China. Si je vais chez Kiabi, même chose. Donc pourquoi pour Chine, ça ne serait pas acceptable et pour vous, ça serait acceptable?
Aujourd'hui, Shein offre très peu de transparence et de traçabilité sur tous les vêtements qu'ils sont capables de produire. Moi, en tant que professionnel du secteur, je ne résous pas l'équation d'un t-shirt à 3 euros, même s'il est fabriqué en Chine et qu'il arrive directement sans aucun intermédiaire en France. Je comprends pas comment ils arrivent à faire ça en produisant dans de bonnes conditions. On sait ce que ça coûte que d'auditer des usines, que d'accompagner nos fournisseurs vers de la décarbonation de leur fabrication, vers un salaire décent des collaborateurs dans les usines, etc., etc. Et a priori, l'équation ne se résout pas. Et donc, on entend dire beaucoup de choses. En tous les cas, visiblement, ils mettent une pression sur leurs usines pour produire à très bas prix.
Et je pense
que ça va dans le bon sens.
Et alors, cette levée de bouclier en France, ça se traduit par l'État qui va au tribunal contre Chine, ça se traduit par vous, les professionnels, qui menez une action collective, c'est auprès du tribunal d'Aix-en-Provence, vous êtes dedans, n'est-ce pas, Julien Paulet, avec Promode. Il y a aussi cette taxe sur les petits colis, ça vient d'être voté dans le budget 2026, il va y avoir un droit de douane, c'est 2 euros pour la France, il va y avoir un droit de douane de 3 euros au niveau européen cet été. Bref, levée de bouclier, est-ce que ça va changer la donne, à votre avis?
En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on travaille tous avec les mêmes règles du jeu. Le marché est compliqué, il y a beaucoup de nouveaux acteurs. S'il y a une partie de la population qui veut acheter des produits de mode beaucoup moins chers, il y a certainement des acteurs qui le font très bien, mais qu'on joue tous avec les mêmes règles. Mmh. Quand Chine se fait rattrapé par la CNIL à 140 millions d'euros, une amende parce que il y a une utilisation frauduleuse des données ou la DGCCRF qui contrôle des colis qui sont pas conformes parce qu'il y a des produits toxiques, etc. C'est pas normal. Moi, ça fait 50 ans que Promode existe. On n'a jamais eu des amendes comme ça de la CNIL ou de la DGCCRF parce qu'on respecte les règles et donc qui viennent sur notre marché avec les règles françaises. Mmh.
Vous avez beaucoup parlé de la planète, Julien Paulet, depuis que vous êtes dans ce studio. Alors, il y a un éco-score textile qui est entré en vigueur en octobre dernier. Ça doit refléter l'empreinte écologique d'une marque. C'est facultatif. Carrefour a annoncé il y a 15 jours vouloir l'expérimenter sur 70 vêtements de sa marque Tex. J'ai pas entendu beaucoup d'autres enseignes volontaires. Est-ce que vous allez y aller sur cet éco-score textile?
Oui, je suis très très heureux de vous l'annoncer aujourd'hui. On va publier cet éco-score textile sur notre site internet avant l'été. Ça veut dire qu'on peut garantir la traçabilité complète de nos vêtements. Et
tous les vêtements, toutes les collections?
Exactement.
Et qu'est-ce qui va se refléter alors là-dedans?
Ça va donner la possibilité aux consommateurs de pouvoir comparer un vêtement Promode par rapport à un vêtement d'autres marques qui affichent son éco-score. Il n'y en a pas beaucoup pour le moment. Mais de comparer un nombre de points sur chacun des produits vendus.
Et les clientes, ils sont sensibles à ça ou bien c'est le prix et rien que le prix?
J'espère qu'elles y seront de plus en plus sensibles parce que nous, on fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là et on investit beaucoup d'argent pour être le plus vertueux possible et avoir le moins d'impact possible sur la planète. Mmh. Maintenant, force est de constater que la cliente, elle cherche d'abord un produit qui lui plaît, un produit désirable, au bon prix. Et si en plus il est bon pour la planète, alors tant mieux.
Une dernière question, c'est sur cette responsabilité sociale et environnementale. On entend beaucoup dans le débat public la discussion sur le travail qui ne paie pas assez. Et je pense aux vendeuses, par exemple, je pense à ces salariés qui ont des temps partiels, qui ont des petits salaires. Qu'en pensez-vous? Le travail qui ne paie pas assez, ça infuse aussi chez Promode?
Bien sûr, ça infuse chez Promode et ça fait partie de nos réflexions, à la fois en interne pour nos collaborateurs, mais aussi auprès de nos fournisseurs, de travailler sur une notion de salaire décent. On aimerait, nous, chez Promode, par exemple, pour nos collaborateurs en magasin, commencer à réfléchir à éviter le travail partiel subi. Certaines personnes souhaiteraient avoir des contrats plus importants et donc on va travailler sur ce sujet en 2026.
Julien Paulet, le PDG de Promode, merci d'avoir accepté l'invitation dans N'arrête pas l'écho.
Avec plaisir, merci beaucoup.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, Tom vous a écrit de Lille. Alors Tom, il a appris qu'il cotisait à la mutuelle de son entreprise depuis 2 ans, alors qu'il est déjà sur celle de sa compagne. Peut-il espérer se faire rembourser ces sommes? C'est la question de Tom.
Ça va être compliqué depuis 10 ans. Comme tous les employeurs, votre entreprise, Tom, est tenue de vous proposer une complémentaire santé. Et vous devez obligatoirement y adhérer, sauf dans certains cas, notamment si vous bénéficiez de la mutuelle de votre conjointe. Mais pour ça, il faut produire tous les ans ans une dispense d'adhésion. Si vous ne l'avez pas fait, la direction n'est pas censée savoir que vous êtes couvert ailleurs. Elle pourrait être sympa et vous rembourser ses cotisations, mais encore une fois, sauf à l'avoir informé, elle n'a pas commis d'erreur. Je sais bien, on ne scrute pas assez attentivement nos bulletins de salaire, mais là, les RH sont en droit de vous dire qu'il fallait regarder les petites lignes.
Autre question, Sandrine, celle de Corinne. Elle travaille pour un centre de distribution de colis en Essonne. Suite aux grosses intempéries du début de l'année, son employeur a fermé le site. Il lui a demandé de rester chez elle et de prendre une journée de congé payé ou sans solde, voire de récupérer à un autre moment les heures non effectuées. Est-ce que c'est légal ?
Alors déjà, Corinne, quelle que soit la raison, un employeur ne peut pas imposer à un salarié de prendre un congé sans solde. C'est interdit, ce serait une sanction pécuniaire. Ensuite, lorsqu'une entreprise doit arrêter son activité en cas de force majeure, inondation, tempête, neige ou canicule par exemple, et qu'il vous demande expressément de rester chez vous, il peut vous proposer, mais pas vous obliger à prendre un jour de congé payé ou à récupérer ses heures. Cette situation relève du chômage partiel. Mais attention, en cas d'activité partielle, vous percevrez 60% de votre salaire brut. Si votre employeur vous offre une alternative, congé payé, RTT, récupération un autre jour, ça vaut peut-être le coup d'étudier la question, c'est une négo.
Dernière question de vie au boulot ce matin, c'est celle de notre auditrice Dom-Dom de Ruffec en Charente. Elle voudrait changer de boulot. Son préavis de départ est de 3 mois si elle démissionne. Dom-Dom redoute que ce délai refroidisse un recruteur potentiel. Que risque-t-elle si elle ne le respecte pas ?
Beaucoup, Dom-Dom, ça n'arrive pas souvent, mais l'entreprise peut vous attaquer en justice pour que vous remboursiez les salaires correspondant au préavis que vous n'auriez pas fait. Là aussi, c'est une négo. Demandez à la direction de vous dispenser de cette période, c'est peut-être aussi dans son intérêt, mais si elle a vraiment du mal à vous remplacer, elle est tout à fait fondée à exiger que vous bossiez jusqu'à la dernière minute du préavis.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Toute l'équipe vous souhaite un excellent week-end et vous donne rendez-vous même jour, même heure, samedi prochain. Moi, je vous retrouve pour une autre discussion, ça se passe demain midi, avec questions politiques.